en Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Nous avons déjà vu plusieurs marques du disciple, renoncer à soi-même, se charger de sa croix, suivre Jésus-Christ. Nous allons regarder ici une autre marque d'un vrai disciple qui est de demeurer dans la parole de Dieu. Il est écrit, et il dit aux Juifs, chapitre 8 de l'Évangile de Jean, verset 31, à partir de verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ceux qui croient, c'est un élan, ici, qui entoure Jésus, c'est juif, mais ils vont vraiment appartenir au Seigneur dans la mesure où ils vont demeurer dans la parole de Christ, s'attacher à Christ réellement, comme de vrais élèves, disciples de Christ. Et la Bible dit qu'en s'attachant, en demeurant dans la parole, alors on connaît la vérité, et en conséquence, eh bien, on devient libre. La vérité vous affranchira. Et la Bible dit au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Prions. Notre Père céleste, merci de nous placer devant ce texte ce matin. Merci de nous aider à mettre ta parole en pratique, à demeurer en toi et à demeurer dans cette parole qui est si précieuse et qui est une lame sur notre sentier. Seigneur, nous te remettons ces moments autour de ta parole, de même que nous avons prié pour t'adorer, nous avons chanté. Et nous avons même intercédé, nous t'avons adoré. Maintenant, nous désirons disposer nos cœurs à écouter ta parole, à être proche de toi. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions l'écouter attentivement et te glorifier. Amen. Alors, j'espère que la séquence des diapos va bien fonctionner. J'aimerais donc vous présenter ce matin un message sur « Demeurer dans la parole ». On a déjà lu le passage. En fait, on va esquisser d'abord comment demeurer dans la parole. Et pour cela, on va voir qu'on peut la mémoriser, on doit la mettre en pratique et on doit y croire en ses promesses. Et ensuite, on verra certainement une autre fois, et je ne sais pas si on arrivera même jusqu'à croire dans la parole ce matin, à pourquoi demeurer dans la parole. C'est connaître la vérité et la liberté et être sanctifié par la parole de vérité. En fait, j'aimerais qu'on puisse tourner en introduction, j'aimerais qu'on puisse regarder quelques passages clés qui parlent de la parole de Dieu et qui montrent comment s'attacher à cette parole, comment certains ont expérimenté le fait de s'attacher à la parole de Dieu. Et dans le psaume 119, au verset 9, il est certainement bien connu, ce premier verset de cette partie du psaume, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. Donc on voit ici que le psalmiste reconnaît que c'est par la parole que le cœur est purifié. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Donc chercher Dieu, c'est aussi chercher à connaître sa parole, quels sont ses ordres, ses commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu qui demeure ici chez le psalmiste l'aide à ne pas pécher contre Dieu. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes statuts. Le psalmiste ici est enseignable, il désire être enseigné par Dieu. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Il connaît la parole de Dieu par cœur. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Donc il est obéissant à la parole de Dieu, comme si je possédais tous les trésors. Pour lui, la parole de Dieu est un bienfait incalculable, c'est un trésor. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. On voit ici que le psalmiste est attaché à la parole de Dieu. Un autre passage clé se trouve en Matthieu 4:4. Je vous le cite par cœur, je pense que tout le monde le connaît. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort. Voilà. Alors, la parole de Dieu est à l'âme, ce qu'est la nourriture est au corps. Nous prenons beaucoup de temps à préparer des bons repas. Nous prenons beaucoup de temps à nourrir nos corps. Mais est-ce que nous prenons suffisamment de temps à nourrir nos âmes par la parole de Dieu? Un autre passage clé, c'est Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a pour effet d'augmenter notre foi. C'est quand on entend la parole de Dieu prêchée ou qu'on la lit, qu'on l'étudie, qu'on la médite, que notre foi augmente. Un autre passage connu, c'est Josué 1, verset 1, 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ainsi, les hommes politiques d'aujourd'hui cherchent beaucoup de succès par toutes sortes de moyens. Ça coûte très cher d'ailleurs, ce qu'ils utilisent comme médias, n'est-ce pas, pour arriver au succès. Mais le vrai succès, la parole de Dieu dit que c'est de se plonger dans la parole de Dieu. Et évidemment, un dernier passage rapidement pour nous introduire dans ce passage, dans ce thème de la parole de Dieu, demeurer dans la parole, comment et pourquoi. Le psaume 1 est... chaque passage ici pourrait faire l'objet d'un message, vous avez compris. Mais il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Beaucoup de gens cherchent le bonheur, n'est-ce pas? Et Jésus, notamment en Jean, nous parle de... ou Matthieu, sur le sermon sur la montagne, nous parle d'un bonheur, mais un bonheur spirituel. Et la Bible dit que ce bonheur vient de cela, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'homme de Dieu heureux sur cette terre est celui ou celle, bien sûr, qui fait de l'Éternel ses délices, de la parole ses délices, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le succès vient de notre attachement à la parole de Dieu. Donc, nous devons apprendre à savoir comment demeurer dans la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit notamment, après tous ces passages, que pour demeurer dans la parole de Dieu, il faut notamment la mémoriser. Voilà. Alors, j'ai fait un petit acrostiche juste pour peut-être que vous-même vous puissiez retenir cela. Mais la parole de Dieu se mémorise tout d'abord en se méditant. M comme mémoriser, se méditant. Il faut aussi l'étudier, l'écouter. Je me suis aperçu, encore ces derniers temps, on parlait dans notre groupe de maison d'ailleurs que Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche, à croire que Dieu veut qu'on entende deux fois plus qu'on ne parle. Mais on a vraiment du mal à écouter. Quand on ouvre la Bible, on est tellement distrait par tellement de choses qu'on a du mal à se concentrer sur ce que Dieu veut nous dire. Et même on a du mal à écouter en général, reconnaissons-le. Mais Dieu veut nous parler. Comment il nous parle? Lorsqu'on étudie la parole, lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on la médite. Aussi, nous devons apprendre pour mémoriser la parole de Dieu à moduler ses lectures. Une fois, j'ai eu dans mon bureau un jeune homme et je lui ai dit « Quels sont tes plans d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans ?» Il m'a regardé avec des grands yeux écarquillés. J'ai dit « Oui, regarde, tu planifies bien tes études et ton avenir et ta carrière, mais est-ce que tu planifies ton plan de lecture biblique et ta formation personnelle ?» Vous savez, si on ne se fixe pas des objectifs, on peut être sûr de ne rien atteindre. On doit apprendre à moduler ses lectures et à organiser son temps, on y reviendra. Il faut apprendre à avoir un temps particulier. Daniel, dans l'Ancien Testament, vous le savez, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il adorait Dieu, dirigé vers Jérusalem, parce qu'il croyait aux promesses de Dieu de la délivrance du peuple juif de Babylone. Et c'est lui d'ailleurs qui a prophétisé, n'est-ce pas, la délivrance. C'était extraordinaire cela. Mais 3 fois par jour, il organisait son temps pour être proche de Dieu. R comme relire sans cesse toute la parole. Paul disait à Timothée, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Non, ce n'est pas Timothée, c'est quelque part dans le Nouveau Testament. Je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Quelque part, on a besoin de lire et de relire et de relire. C'est bon de surligner sa Bible, c'est bon de temps en temps de changer de Bible et de format pour être sûr qu'on n'est pas toujours en train de lire là où on a surligné sa Bible. Maintenant, je dois dire personnellement que j'aime beaucoup souligner la Bible et je change de Bible de temps en temps. Je garde le même format parce que j'aime bien retrouver les notes ou les petits mots que j'ai soulignés, etc. Et des fois, je prends la Bible, je prends des psaumes ou un livre et je ne lis que les versets que j'ai soulignés. Et ça me nourrit de façon extraordinaire. C'est comme un dessert succulent que le Seigneur m'accorde parce que c'est déjà des versets médités qui m'ont parlé et donc je les chéris de belles promesses de la part de Dieu ou des grandes vérités. Une façon de mémoriser la Bible, c'est de l'instruire aux autres. Nous avons besoin d'apprendre à instruire les autres. Nous sommes comme des gens qui avons des trésors, le trésor extraordinaire de la parole, mais parfois ce trésor est caché. On dit que, je crois que je vous ai déjà donné cette illustration, mais que la mer morte est une des mers les plus riches au monde, avec des milliards de minéraux qui, au fond de la mer morte, pourraient être exploités, mais parce que la mer est morte à cause de sa salinité, on peut pratiquement, je l'ai essayé, rester debout comme ça dans la mer morte, tellement le taux de sel est élevé. Apparemment, à part les touristes qui parfois prennent le risque de brûler leurs yeux d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des ophtalmos sur les rives, on a des richesses enfouies qu'on ne partage pas. Les gens autour de nous sont perdus. Perdus sans Dieu, sans Christ, sans la parole de Dieu, sans témoignage, sans lumière. Et nous, nous sommes là par vocation pour instruire les autres, pour leur montrer le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Souligner les passages clés. Alors, le livre de Ralph Challis, Si tu veux aller loin, donne dans un de ses chapitres un petit truc que j'ai utilisé pendant des années, de souligner dans la Bible, avec des crayons de couleurs différents, des thèmes, par exemple, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu, Satan, le salut, l'espérance. Et vous pouvez souligner, j'avais toute une Bible à un moment donné qui était multicolore, parce que j'avais choisi des couleurs pour des thèmes. Et ainsi, quand je faisais des études, je regardais un peu les couleurs, etc. C'était au début de ma vie chrétienne. Mais soulignons les passages, essayons d'étudier la Bible, tout le conseil de Dieu. Pas simplement quelques passages ou quelques livres qu'on aime bien. Essayons de comprendre tout le conseil de Dieu. Vous savez, ce serait triste lorsqu'on va entrer au ciel et qu'on rencontre Ézéchiel et qu'il nous dit « Comment ça va ? Qui es-tu, toi ?» Mais écoute, j'ai écrit tout un livre dans la Bible. Oh, mais c'était tellement compliqué, je ne l'ai jamais lu. C'est dommage. Voilà, et ainsi de suite, vous avez compris l'illustration. Et puis, on doit apprendre à écrire la parole. Vous savez, les rois d'Israël, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'informatique, les Bibles à la portée de tous et chacun. Dieu dit, il faut que tu la médites jour et nuit, mais aussi que tu écrives toute la loi. Les rois d'Israël devaient apprendre à écrire la loi pour l'apprendre. Et puis, réviser ses notes. C'est toujours bon de prendre des notes. On a tellement tendance à oublier, donc de prendre des notes, comme certains font, voilà, c'est courageux. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu a dit, Satan essaye toujours de nous persuader que nous sommes trop somnolents le matin, trop occupés la journée, trop fatigués le soir, évidemment, pour lire la Bible. Il vaut mieux, comme disait Charles Studd, se lever le matin de bonne heure à 5 heures, il se levait tous les matins, il frappait sur le diable avant que le diable ne frappe sur lui. Il vaut mieux apprendre à prier, à lire la Bible le matin, que de terminer la journée avec mille et une choses qui ont alourdi nos âmes parce qu'on n'était pas proche du Seigneur, on a subi plutôt qu'on a vécu. Et donc, il est tellement important de commencer la journée dès le matin. Bonaparte disait, vous le savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure. En tout cas, peut-être qu'on n'a pas besoin de se lever toujours de très bonne heure, ça dépend de l'heure à laquelle on se couche, mais on sait une chose, c'est que le monde appartient, pour nous les enfants de Dieu, à ceux qui, dès le matin, d'une manière ou d'une autre, consultent la parole de Dieu. J'aimerais vous faire un rappel et vous mettre la Bible en chiffres. Alors, je ne vais pas trop pinailler quand même, comme on dit, je ne vous ai pas donné le nombre de caractères, parce qu'on peut même calculer le nombre de caractères de la Bible. En fait, la Bible a 66 livres, vous le savez, l'Ancien Testament, 39, Nouveau Testament, 27, et la Bible est divisée en, vous allez savoir pourquoi je vous dis tout ça à l'instant, en 1189 chapitres, c'est précis, donc 31 171 versets. Et la Bible a été écrite par 45 auteurs sur environ 16 siècles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une unité dans la parole de Dieu qui fait que quand on lit de la première page, Genèse 1, chapitre 1, verset 1, jusqu'à l'Apocalypse et le dernier chapitre, il y a une unité extraordinaire, une pensée commune. Voilà, l'auteur, c'est Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, de Timothée. Mais la Bible a été écrite par différents auteurs. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Comment planifier sa lecture ? Je vous cite quelqu'un, Ralph Chalice, dans son livre « Si tu vas aller loin », qui dit ceci. Premier objectif, dès la conversion, il faut apprendre à lire tout le Nouveau Testament. Alors, il y a ceux qui disent « commencer par l'évangile de Jean », c'est une bonne idée. Mais quelque part, il faut donner aux jeunes croyants l'envie de lire la Bible et de commencer par le Nouveau Testament. C'est sûr que s'ils tombent en Lévitique ou certains autres passages de l'Ancien Testament, ils risquent un petit peu de se décourager. Donc, il faut présenter la Bible aux nouveaux convertis et dire, voilà, la Bible, il y a un ancien, Nouveau Testament, lui présenter un peu la vue globale de la Bible pour l'encourager à lire. Et notamment, il est conseillé de lire le Nouveau Testament, c'est extraordinaire, les quatre évangiles, et on commence par l'Épître aux Romains, l'Épître du Salut, c'est merveilleux, et puis toutes les épîtres pratiques ensuite, et l'Apocalypse, certainement, c'est difficile à comprendre, même encore, moi, qui la lis, après des années et des années, j'ai bien des difficultés pour certains passages. Mais lisons le Nouveau Testament, et en lisant trois chapitres par jour, c'est pas extraordinaire, en trois mois, on lit tout le Nouveau Testament. Donc, une fois qu'on a pris goût, conseillons à la personne de relire le Nouveau Testament. On est dans la Nouvelle Alliance, autant mettre l'accent sur la Nouvelle Alliance. Ça, c'est un bon début. Ça prend pour lire le Nouveau Testament deux fois, avec un peu de discipline, trois chapitres par jour, c'est pas grand-chose. Alors, ça prend six mois. Six mois pour lire deux fois le Nouveau Testament. Alors, il y a des gens qui disent, mais moi, ouh là là, lire la Bible tout entière, mais ça prend tellement de temps. Certains disent, voilà, moi, si déjà je lis la Bible en 5 ans, ce sera pas mal. Réfléchissons un petit peu. Si on lit la Bible en 5 ans, j'ai calculé, d'où le calcul, vous avez compris les chapitres de la Bible, ça fait même pas un chapitre par jour, 0,65 chapitres par jour, en 5 ans. Et je ne suis pas sûr que ceux qui se fixent de lire, plus ou moins consciemment, en 5 ans, la Bible réalise que ce n'est que 0,65 chapitres par jour. Donc, il se peut lire 2-3 chapitres par jour, ce n'est pas trop élevé. Donc, il se peut qu'il y ait des blancs dans leur temps organisé pour lire la Bible, ou peut-être des semaines ou des mois sans lecture. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que si à l'âge de 20 ans, quelqu'un lit la Bible à ce rythme-là, eh bien, il aura, à 60 ans, lu la Bible uniquement 6 fois. Donc, vous avez 20 ans, vous lisez la Bible, si vous lisez la Bible en entier, il y a ceux qui n'ont jamais lu la Bible en entier. J'ose pas demander ici quels sont ceux qui ont lu toute la Bible. J'ose pas demander. Mais à 20 ans, à 25 ans, donc, si on lit la Bible une fois en 5 ans, on commence à mûrir un petit peu. À 30 ans, on commence à se marier, avoir des enfants, la carrière. Vous vous rendez compte, lire toute la Bible 6 fois de 20 ans, 60 ans, en 40 ans, c'est peu pour mûrir et devenir un homme de Dieu. C'est très peu. On met beaucoup d'accent sur l'élitisme, il faut faire des grandes écoles, il faut étudier à tous les niveaux finalement. Il faut étudier pour réussir. Il faut étudier pour réussir. C'est comme ça qu'on est enseigné, non, élevé. Il faut étudier pour réussir. Mais pour réussir dans le Seigneur, il faut aussi étudier la parole. Mais combien de temps allons-nous passer dans la parole de Dieu ? Alors, il y a un objectif idéal, quelque part, qui est reconnu par beaucoup d'hommes de Dieu. L'idéal, c'est de lire la Bible en un an. Savez-vous quoi ? Que lire la Bible en un an ne prend que 3,3 chapitres par jour. Alors, c'est vrai que il y a des passages dans la Bible ou des chapitres, comme l'évangile de Luc, les chapitres sont beaucoup plus longs. que dans d'autres, que dans les épîtres. Mais faisons une moyenne, et c'est pour ça qu'il y a un auteur ancien qui a fourni un petit livret ici. Il y en a au fond de la salle, où je peux vous en donner un, j'en ai le bureau, qui s'appelle « La Bible, c'est comme un parachute », ça vient de l'IBG, « La Bible en un an ». Et même, on lit deux fois les psaumes et deux fois les quatre évangiles, en lisant quatre chapitres par jour. Alors, c'est pas extraordinaire si ça prend 15 à 20 minutes. Réfléchissons. Combien de temps passons-nous devant la télévision, en voiture, écoutant la radio, la musique, en distraction plus ou moins utile? Combien de temps, où nous les Français, là, combien de temps passons-nous à manger? Je me souviens, un Québécois, un évangéliste, était venu en France, il était bouleversé en rentrant à Québec. Il a dit, mais en France, on se met à table à midi, midi 30, et on se lève 2 heures plus tard, au milieu de la journée. Mais il dit, c'est fou le temps qu'on perd. Enfin, c'est une façon de vivre, d'accord? On n'est pas contre les bons repas, l'amitié. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on va avoir un excellent repas samedi prochain. Il faut venir. Mais ça fait partie de la vie, c'est vrai. Mais nous passons parfois trop de temps dans des choses secondaires. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quelqu'un qui lit la Bible en un an, à l'âge de 20 ans, s'il commence, à l'âge de 60 ans, tenez-vous bien, il aura lu donc 40 fois la Bible. Alors, c'est toute une différence. Parce que, contrairement à celui qui a 20 ans, qui lit la Bible en 5 ans, celui qui lit la Bible en un an, à 25 ans, il a lu 5 fois la Bible. Quelque part, bon, on ne peut pas rationaliser comme ça, mais il a en tout cas une communion avec Dieu peut-être 5 fois plus développée. Et ainsi de suite. Alors, au travers de la vie passe vite. On n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. C'est pour ça que le Seigneur m'a appelé. Je résistais pas mal. Et il m'a dit non, on n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi la vivons-nous? Alors, pensons à investir notre temps dans la parole de Dieu. C'est vrai que la vie est faite de beaucoup d'imprévus, de tentations aussi, de péchés parfois qui sont là et que l'on combat. Mais la seule façon, c'est de se laisser transformer par la parole de Christ, d'être purifié et de dire ce que dit Dieu qui est vrai et laisser la vérité nous affranchir. Alors c'est le fil de plomb qui rectifie nos vies. Mais si nous le mettons de côté, alors ici, quand on a bâti ces murs, on avait engagé, et Pierre s'en souvient bien, on avait engagé un maçon. Mais il nous étonnait parce qu'il mettait les briques les unes sur les autres par rapport à la face de la brique. Il n'utilisait jamais le fil de plomb. Et pourtant, c'était un maçon. Mais on lui dit, mais non, c'est bien connu dans la maçonnerie que les briques ne sont jamais rectangulaires et qu'il ne faut pas monter les briques sur l'arête et ainsi de suite. Parce qu'après quelques rangées de briques, la brique, le mur est tout de travers. Et je me souviens que Pierre a dû gratter un mur extérieur, vous ne l'avez jamais su, pour le mettre d'aplomb, entre le haut et le bas, il y avait ça, donc il a dû casser la brique pour rattraper, crépir, parce que le mur était de travers. Alors on peut être sincère, mais être sincère dans l'erreur. Et sans se rendre compte, ne plus utiliser le fil à plomb du Seigneur, sa parole et sa présence. Alors, j'avais très longtemps dessiné un petit dessin, là j'aimerais vous le donner. Alors maintenant, il y a des moyens modernes, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai pensé qu'il fallait utiliser les 3 C, son cerveau, son cahier et son classeur. Vous avez compris un petit peu, et voilà le dessin que ça a donné à l'époque. L'idée, c'est que quelque part, on doit s'imbiber de la parole de Dieu. Ce qui est frappant, pour ceux qui étudient le Coran dès le jeune âge, ils étudient par cœur, ils ne comprennent rien. Et parfois, c'est très difficile même de comprendre le sens, hein, du, semble-t-il, du Coran. Mais ils apprennent par cœur. Et nous, est-ce que nous apprenons la Bible par cœur? Alors, il y a des gens, j'ai entendu dire aux États-Unis, des gens qui étudient tout un évangile et qui le récitent comme ça par cœur. Bon, moi, je suis allé jusqu'à la première épître de Jean, mais pas plus, mais peut-être que j'ai eu tort, n'est-ce pas, si j'avais pris cette habitude dès le jeune âge chrétien. En fait, je m'aperçois que quand on mémorise la parole de Dieu, c'est souvent les versets qui nous reviennent à l'esprit dans les moments difficiles ou les moments de tentation ou les moments d'épreuve. On se souvient particulièrement de ces versets que l'on a chéris La preuve, c'est qu'on les a appris par cœur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Alors chacun, on a notre récital un petit peu de versets par cœur, mais pourquoi pas étudier des chapitres. Alors moi j'invite les jeunes qui étudient l'évangile de Marc de faire une démonstration à la fin de l'année et que les uns après les autres, ils récitent tous les chapitres de l'évangile de Marc. Ce serait merveilleux que vous divisiez les chapitres ainsi et que vous puissiez les réciter par cœur. Vous avez compris l'idée, c'est que nous devons demeurer dans la parole. Alors comment demeurer dans la parole? Et bien sûr, je vous invite à lire en Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Notre groupe de maison a été particulièrement lent pour le chapitre 1. On a passé 3 fois au lieu de passer 2 fois parce qu'on a beaucoup discuté sur les épreuves, etc. Et vendredi dernier, on a parlé justement de ce passage clé, notamment au verset 22. « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comme il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors j'ai remarqué que devant le miroir, on a plusieurs réactions. Notamment, on se peigne différemment. Et des fois, j'ai des enfants qui sont revenus du miroir et j'avais cru comprendre qu'ils n'avaient pas saisi ce que leur miroir leur disait. Mais ils aimaient se coiffer de la façon avec laquelle ils s'étaient coiffés. Bon, ils ont réagi d'une certaine manière. Mais avec la parole de Dieu, on a une grande liberté, mais la parole de Dieu nous touche. Et la réaction à la parole de Dieu doit être celle que le Seigneur nous communique. Tout d'un coup, la lumière jaillit dans nos cœurs, on se dit « Ah, je suis comme cela !» Moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les jeunes. En vieillissant, on ne s'améliore pas. Et plus on vieillit, plus on s'aperçoit que notre cœur est adamique. Ah, bien sûr, Dieu nous transforme, il brise notre orgueil, il brise notre impureté, il brise notre égoïsme, il brise bien des choses. Mais il n'empêche pas moins que chasser le naturel, il revient au galop, disait Voltaire. C'est pas qu'il était chrétien, lui. Hein. Mais si on laisse la chair se manifester, alors elle peut nous rendre esclaves. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors la parole, justement, nous montre les choses. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que nous croyons mettre la parole en pratique. Et la Bible dit que parfois, nous nous trompons par de faux raisonnements. J'ai dit ça, tant pis, je me répète pour ceux qui étaient au groupe de maison, mais par exemple, dans la Bible, il est clair que les parents doivent instruire les enfants. On est d'accord là-dessus? Tout le monde est d'accord là-dessus. Et que les parents doivent aussi les châtier, physiquement. Là déjà, on perd peut-être 50%. Pourtant, c'est ce que dit la Bible. Alors, il y a une façon de le faire, avec amour, qui n'est pas la fessée, culturelle, où les parents frappent les enfants parce qu'ils en ont tellement marre. C'est par colère. Et finalement, ils déversent leur colère sur un enfant parce qu'ils ne savent pas comment le gérer. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu, dit la Bible. Ou une fessée qui correspond à une rébellion, parce que le châtiment physique est lié à une rébellion. Et le châtiment physique doit être fait à un jeune âge, pas un âge, les premières années, pour que l'enfant pousse droit. Alors, on peut discuter là-dessus, sur la façon de corriger, et c'est la grande discussion, parce qu'il y a des abus, il y a des excès par le fait de ne pas le faire, il y a des excès par le faire, mais tellement maladroitement que les lois aujourd'hui interdisent de le faire. Mais il n'empêche pas moins que la Bible dit qu'il faut le faire. Donc vous voyez, on peut discuter sur la parole de Dieu sans se rendre compte, ne pas la mettre en pratique. Notre devoir, c'est de nous humilier. Et la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande sans douter et elle lui sera donnée. Donc il y a beaucoup de domaines. Le mari leader-serviteur, c'est un vrai défi, mais la femme soumise aussi. C'est une mauvaise conception dans le monde aujourd'hui, la soumission. Si on comprend ce qu'est la soumission, Ça y est, tous les maris sont heureux, mais là que je parle de soumission. Mais si on parle de la soumission, c'est un respect profond, c'est une aide, parce que l'homme est incomplet. Et la femme est là, envoyée par Dieu pour compléter le mari, et ainsi de suite. Bon, je me lance là-dessus, c'est un peu, vous savez, mon dada, la famille, vous le savez. Alors, comment mettre la parole de Dieu en pratique ? En fait, dans ce passage, il est question de parole de vérité, parole qui nous a régénérés. Si on n'est pas régénéré par la parole de Dieu, eh bien, on n'est pas sauvé, parce qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Une fois régénéré, on applique la parole de Dieu. Et une façon qui démontre qu'on est vraiment régénéré, c'est d'avoir une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, la Bible dit que justement, on doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est des choses très pratiques. Et Jacques est en train de dire, mais si vous connaissez le Seigneur, prouvez cela en mettant la parole de Dieu en pratique. Démontrez que votre foi est agissante et que vous suivez Dieu, parce que c'est lui-même d'ailleurs qui vous a régénéré. Et ce n'est pas Dieu qui vous tente, mais c'est des épreuves de la vie où parfois notre propre tentation est convoitise. Bon, vous avez compris l'idée, c'est qu'on peut se regarder dans un miroir et ne pas prendre soin de soi-même. Et la parole de Dieu est là et elle nous éclaire. Ta parole est une lumière sous mon sentier. Mais si nous ne la lisons pas, nous n'allons pas être dans la lumière. Alors, comment mettre la parole de Dieu en pratique ? Là, je vais faire un survol, faute peut-être de temps, mais vous me pardonnerez, mais j'aimerais vous indiquer un petit truc. Moi, j'aime bien dessiner, des schémas surtout. Voilà. Bon. Et en fait, de temps en temps, mais ça m'arrive fréquemment, je prends une feuille de papier, je la divise en pointes de tarte, et j'essaie de voir comme des compartiments d'un tiroir sous les domaines de ma vie. Je dis, là, Seigneur, voilà, j'ai des luttes là, ou peut-être je devrais voir des choses différemment là, ou être transformé là. Et j'essaie de trouver le passage de l'Écriture qui m'enseigne le bon comportement pour avoir une pensée christocentrique, pour avoir une pensée biblique qui dirige ma vie. Alors, c'est un exercice, je trouve, passionnant. Et en fait, il y a plusieurs domaines dans la vie où on a besoin de savoir si on est vraiment centré sur la parole de Dieu, si on la met en pratique, ou si on sait intellectuellement, mais le cœur ne suit pas. Vous savez, la pensée grecque, la sagesse, c'est le savoir. Mais la pensée hébraïque et biblique, la sagesse, c'est le savoir-faire. Et donc, parfois, on se contente de dire « oui, je sais, parce que je sais, alors ça va ». Mais la Bible dit « tu sais, et maintenant, alors tu dois mettre en pratique ». D'accord ? On y va ? Alors, je vous donne quelques exemples, que ce soit la vie de couple, la vie familiale, la vie d'église, etc. Comment mettre nos vies centrées sur la parole de Dieu ? Vous voyez le symbole ici, la parole de Dieu, la tarte, ça va ? Vous la voyez bien ? On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma vie de couple ? La Bible dit qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie familiale ? Qu'est-ce qui se passe dans mon église, la vie que j'ai avec l'église, et qu'est-ce qui se passe dans ma vie sociale? Ah, on y va? Allez, vous me donnez quelques minutes, on fait un survol. Première chose, la Bible dit très clairement que la femme doit être soumise à son mari. Et la Bible dit clairement que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Mais c'est tout un programme. Vous savez, notre société va mal parce que les familles vont mal, parce que les couples vont mal. Aujourd'hui, on entend dire toutes sortes de choses, des enfants délinquants, souffrants d'un manque d'amour, qui ont tout un tas de déséquilibres parce qu'ils n'ont pas été élevés avec un papa et une maman qui s'aiment. Nous, croyants, on a l'amour de Christ en nous, c'est extraordinaire. Et c'est l'amour de Christ qui fait que l'épouse se soumet à son mari, par respect de son mari, parce qu'elle aime son mari, comme au Seigneur. Je n'ai pas le temps de développer ce grand thème, n'est-ce pas ? Mais c'est une attitude intérieure qui est le reflet de la plénitude du Saint-Esprit. Juste avant, Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, etc., vous soumettant les uns aux autres. La soumission, c'est pour tout le monde. Et puis, il en fait une application à l'épouse, et puis il dit au mari, tu dois te soumettre à Christ, parce que tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mission impossible, hein, sans le Seigneur. Une femme soumise sans le Seigneur, mission impossible. Est-ce qu'on vit ça vraiment en tant que couple ? Le mari ne doit pas devenir un dictateur autoritaire. Ça, c'est de la manipulation. Ni une épouse essayer toujours de contourner l'autorité et finalement de diriger le mari. Ça, c'est une insoumission. Donc, voyez-vous, l'équilibre dans le couple, c'est la clé du succès dans nos vies. Tout commence là. Si nous élevons les enfants dans le Seigneur, il faut d'abord que notre couple soit le reflet de ce que Dieu veut et qu'on agisse selon ce que l'Écriture dit, pas ce que je pense, pas ce que mes parents m'ont appris, mais qu'est-ce que dit l'Écriture ? Ça fait toute une différence. Vie familiale, maintenant, relation parent-enfant. Alors, ça se trouve essentiellement dans Éphésiens, il y a aussi un passage en Colossiens. Il y a très peu de passages qui parlent de l'éducation des enfants dans le Nouveau Testament. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un livre tout entier qui en parle, le livre des Proverbes. Et je peux vous témoigner qu'un jour, le Seigneur m'a repris, parce qu'en lisant les Proverbes, j'ai vu qu'essentiellement, l'éducation des enfants, c'est le rôle du père. Ce n'est pas le rôle de la mère. Aujourd'hui, les gens disent, oh, moi je pars travailler, c'est la mère. En plus, si elle part travailler, non, c'est la mère qui s'occupe des enfants. Mais où est-ce qu'on voit ça dans la Bible ? Le père est le responsable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élégation. Puis, on sait, évidemment, la part et l'influence qu'a une maman envers ses enfants, qui est extraordinaire et qui est formidable. Mais il n'empêche pas moins que c'est le père. Et la Bible dit en Deutéronome qu'il faut aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, etc. Puis, lorsqu'on part en voyage, les parents, qu'il faut enseigner les enfants quand tu te lèves, quand tu te couches, et en voyant la nature, enfin, je paraphrase, et ainsi, centrer toujours la vie familiale sur Dieu. On peut voir un beau paysage et s'exclamer devant les enfants. Vous avez vu les enfants, comme c'est beau ce que Dieu a créé. On peut les enseigner matin et soir dans la parole de Dieu ou comment prier. Mais surtout, on peut leur enseigner à nous imiter si nous-mêmes nous suivons le Seigneur. Parce que les enfants sont des éponges qui absorbent tout ce qu'ils voient. Et si notre influence est celle du Seigneur, alors nous allons avoir un foyer heureux et béni. Et les enfants doivent aussi apprendre à se soumettre, hein, en fait, deux choses, l'obéissance et l'honneur. L'obéissance, se soumettre aux parents, et l'honneur, c'est les respecter, honorer. C'est un mot très fort dans l'original, qui est un profond respect, de même que le père honore le fils, c'est le même mot. Alors, l'obéissance et l'honneur. Dans la vie familiale, pour mettre la parole de Dieu en pratique, dont le couple doit vivre en harmonie avec le Seigneur, en harmonie avec le Seigneur entre eux, puis avec les enfants, et les enfants, apprendre aux enfants à se soumettre, à honorer les parents, et à le faire de façon équilibrée, et donc un jour à aimer la parole, et à aimer Dieu surtout, et la parole en même temps, et un jour ils s'envolent, mais ils s'envolent armés de la parole de Dieu. Nous, un jour, les parents, on s'efface. Hein, vous qui êtes parents avec des enfants qui ont quitté le foyer, ben c'est notre secours, c'est penser qu'ils prient le Seigneur et ils lisent la parole. Notre investissement n'est pas perdu. Et certainement, quand on meurt, on perd tout. Mais il y a un investissement qu'on ne perd jamais. C'est l'investissement qu'on a donné dans nos enfants. Amen. C'est pas bien fort, ça, quand même. Hein? OK. La vie d'Église. Alors, c'est un survol, hein? Je m'excuse. La vie d'Église. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. L'amour est... Ça commence comment ? Et là, moi, je me dis, j'ai beaucoup à apprendre. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'en vit pas, il ne se flatte pas, il ne s'enfle pas, il n'est pas orgueilleux, etc., etc. Est-ce que nos cœurs sont remplis de l'amour de Christ, de miséricorde, de pardon ? Un des péchés dans l'Église, parfois, c'est l'incapacité de pardonner. La susceptibilité orgueilleuse qui fait qu'on ne voit pas l'autre avec amour. En fait, toutes nos actions devraient être liées à l'amour. L'amour de Dieu, l'amour fraternel. Est-ce que nous sommes remplis de l'amour de Christ qui consiste à donner, à être un oasis qui se déverse sur les autres ? Ou est-ce que nous sommes toujours en train de dire « donne, 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 donne » et à vouloir recevoir alors que Dieu nous appelle à donner ? C'est impossible d'avoir un cœur rempli d'amour qui ne donne pas, qui ne sert pas les autres, qui ne vit pas pour les autres. Et aussi la koinonia, la Bible, on a étudié les épîtres de Jean, hein, qui sont remplis de cet esprit-là, de koinonia, d'amour fraternel. Si quelqu'un voit son frère dans le besoin et qu'il dit « va », comment l'amour de Christ est en lui. Donc une entraide, la koinonia, c'est une entraide matérielle, une entraide spirituelle, où on se soutient les uns les autres. Et aussi le ministère. Vous savez, on sait tous que l'Église est comparée à un corps. Bon, à un édifice, à un troupeau, et des brebis que nous sommes, et Jésus-Christ le bon berger, puis un corps où Jésus-Christ est la tête. Et la Bible dit clairement que dans le corps, chacun a sa place. Chacun a une place précise, avec un don précis. À l'un est donné une parole de sagesse, à une autre parole de connaissance, à un autre, etc. Mais est-ce que nous vivons vraiment cela ? Est-ce que nous sommes en train de mettre la parole de Dieu en pratique ? Est-ce que dans l'Église, on est au service de Dieu ? Je ne dis pas au service de l'Église. On ne donne pas non plus financièrement à l'Église, on donne au Seigneur. C'est tout à fait différent, cela. Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu dans tous nos comportements, dans l'Église ? Alors, ce n'est qu'une esquisse, vous avez compris ce matin. Mais est-ce que nous savons nous comporter et vivre selon les dons que Dieu nous a donnés, sachant qu'on a un don qui peut être enfoui, qui pourrait être une bénédiction, une richesse pour les autres ? Que nul ne vit pour lui-même, dit la Bible. Alors, même si on ne vit pas pour Dieu, nul ne vit pour lui-même, ça veut dire qu'en ne vivant pas pour Dieu, on a une influence dans l'Église. Et ça crée la crainte de Dieu en chacun de nous, parce qu'il faut reconnaître qu'on est imparfait, et donc, quelque part, on est un maillon faible, n'est-ce pas, dans l'Église. Ensuite, j'ai mis la vie sociale avec beaucoup d'aspects. Tout d'abord, le témoignage. Acte 1, 8, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit qui surviendrait sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, en Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous avons une vie de lumière ? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Est-ce que cette lumière brille pour donner envie aux autres d'être éclairés comme on est éclairé ? Si on est confus nous-mêmes, les gens ne vont pas venir vers nous. Et le sel de la terre qui donne goût à la vie. Est-ce que les gens qui nous voient vivre disent, ah mais ceux-là, ils sont différents. Ils ont un goût à la vie qui est différent. Je voudrais être comme eux. C'est un bon témoignage à rendre. Et merci Seigneur que l'on témoigne par la grâce de Dieu. Et on se réjouit les uns et les autres des témoignages que l'on donne et des partages que l'on fait à telle personne à qui on a pu parler. Mais est-ce qu'on est conscient que sur cette terre, c'est le mandat que Dieu nous a donné ? Est-ce que nous pratiquons cela ? Et nous pouvons... Il y a une époque dans ma vie, et je dois dire, et je devrais le refaire, mais il y a une époque dans ma vie où je priais tous les matins que le Seigneur me donne quelqu'un à qui parler de l'Évangile. Et savez-vous quoi ? Ça arrivait chaque jour. Chaque jour, il y avait une occasion, une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'autobus, dans le train, en avion, que ce soit à pied, que ce soit en voiture, que ce soit dans le commerce. Il y a toujours une occasion... à laquelle on peut que l'on peut saisir et parce que la Bible dit qu'il faut racheter le temps et racheter le temps c'est l'idée de saisir l'occasion que Dieu nous donne. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, ce ne sont pas les bouddhistes, ce ne sont pas les musulmans qui vont apporter au monde la lumière du monde qui est Jésus-Christ et la vie éternelle. Ensuite, la Bible dit, dans le plan social, qu'on doit être soumis aux autorités, qu'on doit payer les impôts, qu'on doit prier pour les autorités. Romains 13 dit qu'on doit se soumettre aux autorités. Et il faut dire que dans notre société, on a tendance un petit peu à se moquer des autorités. Et on parlait des motards comme des vaches roulantes, je me souviens, j'entendais ça quand j'étais enfant. Mais c'est un manque de respect. Alors, parfois, bon, la police peut faire des abus, personne n'est parfait. Mais nous devons apprendre notamment à nos enfants à respecter les professeurs à l'école, à respecter la police, à respecter les autorités, même si parfois hein, on s'inquiète pour les autorités, il y a de quoi. Mais on doit prier pour les autorités. Est-ce que nous, en tant que croyants, on influence la société par nos prières ? Alors, sans faire de politique, je m'empresse de le dire, mais est-ce que nous prions pour les autorités ? Nous nous plaignons souvent des autorités, mais est-ce que nous prions pour les autorités ? Et dans le travail et les études, notamment dans les études, est-ce qu'on est honnête ? Je me souviens d'une jeune fille étudiante, je ne vais pas dire en quoi, je ne veux pas que quelqu'un trouve qui c'est, qui était dans des études supérieures. Et j'ai su, alors qu'elle était croyante, qu'elle avait triché un examen et qu'elle avait été prise en train de tricher. Alors, est-ce que nous étudions de façon honnête et passons nos examens de façon... C'est une caricature, mais quelque part, si aussi nos parents nous aident à nos études, mais soyons respectueux. Malheureusement, il y a un jeune homme que les parents avaient soutenu pendant des années qui avait pris l'argent du soutien de sa famille et de la bourse pour essayer de créer une entreprise qui n'a jamais marché. Et pendant 3 ans, il a vécu dans le mensonge, faisant croire à ses parents qu'il était en train de faire une licence en, alors qu'en fait, il n'était pas aux études, mais il était aussi en train de s'enrichir, et en fait, de s'appauvrir surtout, parce qu'il n'a jamais réussi. Alors, bon, ce sont des caricatures. Mais dans le travail, nous avons tous, plus ou moins, un patron. Vous avez un patron? Ceux qui travaillent tous les jours, vous avez un patron? Est-ce qu'il est aimable, votre patron? Vous avez un collègue? Est-ce que vous dites, vivement la fin de la journée, alors celui-là, il a un caractère, il faut que je le supporte, c'est incroyable. Alors on a une façon avec laquelle on peut glorifier Dieu en tant que croyant. On n'est pas responsable d'avoir des gens autour de nous avec des caractères difficiles, mais on est responsable de la façon avec laquelle on réagit à ces caractères difficiles. Et c'est là où notre témoignage de grâce et de soumission, parce que dans Éphésiens, il est clair que les patrons doivent apprendre à aimer leurs employés, n'est-ce pas, comme dans le Seigneur, et que les employés doivent servir leurs patrons, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Voyez-vous, l'Évangile, notre thème cette année, c'est vivre l'Évangile. L'Évangile doit pénétrer toute notre vie, vie familiale, vie de couple, vie sociale, afin que le monde sache que parce que la parole nous a régénérés, parce qu'on demeure dans la parole, parce qu'on pratique la parole, nos vies sont transformées. Il y a toute une différence d'un comportement chez le croyant au travail qui glorifie le Seigneur. Ensuite, alors on pourrait mettre X points de tarte, hein, j'ai presque fini, rassurez-vous. Alors il y a le temps, les loisirs et l'argent. Et la Bible dit « rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Ça veut dire qu'on est responsable devant Dieu de la façon avec laquelle on gère le temps. On n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. Je ne sais pas si vous avez fait déjà l'exercice, mais pour moi c'est une des choses les plus difficiles, je trouve, à réaliser. Et pourtant, quand on lit le Nouveau Testament, Jésus, le Fils de Dieu sur terre, il avait certainement beaucoup de choses à faire et il pouvait faire beaucoup de choses. Mais dans les 3 ans de son ministère, il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » C'est lui qui m'a envoyé. Il était soumis à la volonté de Dieu le Père et il semble dans le Nouveau Testament, quand on lit la vie du Seigneur, qu'il finissait la journée toujours satisfait, ayant accompli la volonté de Dieu. Et nous, on a des agendas remplis. Et je fais la liste tous les matins ou même le lundi, toute la semaine, tout ce que je dois faire. Et puis le soir, on est frustré, alors on se couche tard parce qu'on n'a pas encore fait l'email là, on n'a pas encore fait ça. Et on s'agite avec le stress. Mais à culpa. Mais est-ce que Dieu veut qu'on ait des vies comme cela? Peut-être on doit apprendre à gérer le temps d'une autre façon, avec le regard de Dieu, et penser que le temps est relatif, mais bien sûr qu'il faut être de bons gestionnaires du temps, comme gestionnaire des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Il n'y a pas de la place, notamment pour la paresse, pour l'oisiveté, le laisser aller, etc. Bon, l'idée ici, en tout cas, c'est que Dieu veut qu'on rachète le temps, car les jours sont mauvais. Et en 1 Corinthiens 10, 31, si ma mémoire est bonne, ça dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Alors dans les loisirs que l'on a, il faut se détendre, il y a des bons loisirs. En fait, il y a des loisirs parfois qui stressent plus que ce qu'on devrait. Si on est fanatique d'une partie de tennis ou de rugby, et puis la personne pour qui on voudrait, qu'on voudrait qu'elle gagne est en train de perdre, on commence à s'énerver, c'est pas du repos cela, n'est-ce pas? Alors les fans de Stade Toulousain, ben, hier ils ont perdu, j'ai su ça ce matin à la radio, ben, tant pis. Il y aura d'autres matchs. Ce n'est pas la fin des haricots, comme on dit. Bon. Mais la Bible dit aussi, et c'est un dernier point, juste après il y aura un point, mais en Matthieu 6, c'est une esquisse, c'est un survol, mais faites l'exercice vous-même, s'il vous plaît, comme cela, mettez la parole en pratique. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On est dans un monde tellement matérialiste. Je me souviens, je le dis comme témoignage, bref, ma femme et moi, on a vécu, on est arrivé dans une église avec 23 centimes dans le compte en banque. Cents, exactement, des cents canadiens, qui étaient même moins élevés que des cents américains. Et en fait, on a vécu par la foi, et même la nourriture nous était apportée par les corbeaux du Seigneur, si vous connaissez l'histoire d'Élie. C'était incroyable. On était jeunes mariés, on dépendait vraiment du Seigneur, et parfois plusieurs jours d'affilée. Et Dieu pourvoyait. Mais savez-vous quoi? Ça a été les moments les plus heureux, les plus bénis qu'on ait pu avoir, parce que c'était Dieu qui intervenait. Mais on est dans un monde matérialiste où tout est dû. Même je dirais qu'il y a presque une mentalité de profit, de profiter de l'État, profiter des autres, profiter, alors que ce qu'on devrait, c'est être reconnaissant envers Dieu de ce qu'il nous donne lui-même et de se contenter de ce que nous avons, contentez-vous de ce que vous avez et de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Allez, je vous donne une anecdote, ça me vient à l'esprit, mais ça illustre tellement ça. Alors, à un moment donné, moi, je disais au Seigneur, mais mon soutien, pasteur à Québec, ce n'était pas terrible, une petite église et tout ça. Alors, j'ai décidé un jour de vendre des voitures aux États-Unis parce que les voitures canadiennes, il y avait 30% entre le dollar canadien et le dollar américain. Et je me suis dit, je vais acheter une voiture canadienne, je vais passer la frontière et la vendre aux États-Unis 30% plus cher. C'était bon comme calcul, non ? Des pierrettes au potolet. Il me dit, une voiture par mois, États-Unis aller-retour, bon. Et puis je suis parti un matin, aller aux États-Unis, 4-5 heures du matin, j'étais sur l'autoroute, belle voiture, j'étais fier d'avoir acheté ça. Puis je commençais à rêver, voilà, mes soucis matériels sont finis, je vais amener une voiture tous les mois aux États-Unis. Parce que les Canadiens ne voulaient plus des 8 cylindres, gros moteurs qui dépensent beaucoup d'essence. Les Américains, ils aiment le confort. Donc, ils m'ont acheté ces grosses voitures canadiennes. Et puis, quand je dépasse une voiture sur l'autoroute, tout d'un coup, je tombe sur un énorme bloc de béton. Et je l'ai évité de justesse. C'était 5 heures à peu près du matin. On était déjà à quelques kilomètres de Québec, direction les États-Unis. Mais là, ma joie s'est transformée en larmes. Parce que j'ai compris, et Dieu a utilisé cet événement pour montrer, mais Michel, où vas-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai envoyé au Québec pour le salut des âmes, pas pour vendre des voitures aux États-Unis. Et là, j'ai pleuré dans la voiture, vous ne pouvez pas savoir. J'ai réalisé que je n'étais pas à ma place, que je n'étais pas là où Dieu me voulait. Et Dieu a été miséricordieux parce que finalement, j'ai quand même vendu la voiture aux États-Unis. En tout cas, elle est tombée en panne. Alors, voyez-vous, le Seigneur a de l'humour toujours dans nos vies. Mais je me suis repenti. C'est Dieu qui pourvoit mes besoins. Et c'est lui et mon Père Céleste prend soin de moi. Et je m'égarais en croyant en voulant faire. Alors, ça veut dire qu'on ne doit pas travailler. Ne prenez pas cette illustration pour dire qu'on ne doit pas travailler ou faire des affaires. Si on est appelé à faire des affaires, ben que Dieu bénisse vos affaires. Mais chacun en a une place. Et on doit mettre en pratique l'appel ou ce que Dieu nous a communiqué. Allez, un dernier point, si vous me permettez. La Bible dit aussi qu'on doit mettre en pratique dans notre vie sociale qui nous fréquentons. Hein, on dit, dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Ce n'est pas tout à fait faux, ça. Est-ce que nous prenons plaisir à avoir des amis chrétiens? Et même, j'ajouterais, vous allez dire, oh là là, vous mettez la barotte, des amis chrétiens qui nous édifient, pas qui nous amènent vers le bas, mais qui nous amènent vers le haut, à aimer le Seigneur, à prier, à lire la Bible, à témoigner, à se sanctifier, à vivre dans la pureté. Alors, bon, pour terminer, je vous donne un passage qui est assez mordant, mais qui montre que dans nos vies sociales, nos affaires, nos associations, nos fréquentations, il y a un principe ici de la Bible qui a aidé beaucoup de croyants qui ont voulu mettre ça en pratique, mais qui doit faire réfléchir. Alors, c'est un contexte où c'est un passage qui vient de l'Ancien Testament et en fait, une situation d'Israël à Babylone, qui était appelée à quitter Babylone. Mais il est écrit en 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Alors ça pose le problème du compromis que fait le croyant. Compromis avec le temps, compromis avec le monde, avec les personnes du monde. Moi, en tant que parent chrétien, je n'ai jamais voulu que mes enfants aillent dans une boîte de nuit. Il y a des choses où le croyant n'a pas sa place. Il y a un livre qui a été écrit, « Que ferait Jésus à ma place ?» Et la question à se poser, est-ce que Jésus aimerait que je sois là ? Est-ce qu'il serait là à ma place, là où je me trouve, là, ou ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense ? Hein ? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Mariage chrétien, non chrétien, c'est clair. On n'a pas besoin de se poser de questions si on est amoureux d'une belle jeune fille non chrétienne, d'un beau jeune homme non chrétien. Ben réfléchissons avant. En tout cas, ne jouons pas avec le feu, parce que les conséquences ensuite peuvent être terribles. Et par, je ne dis pas ça pour menacer, hein, mais par observation, j'ai trouvé que ceux qui dérogent cette règle ou rentrent dans des relations sexuelles avant le mariage, chrétien, non chrétien, il y a beaucoup de séquelles. Et donc Dieu veut nous épargner afin que la parole de Dieu dans laquelle nous demeurons nous évite des pièges, des combats. Il y en a assez de combats. Mais la parole de Dieu nous garde. Et le psalmiste disait, « Je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » On ne peut pas serrer ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne chérit pas, en quoi on ne demeure pas. Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de la patience de mes frères et sœurs pour écouter ce message. Donne-nous la simplicité de vivre tous les jours proche de toi, de nous laisser sonder. Je pense à ce passage qui dit « Oh Seigneur, sonde mon cœur, montre-moi si je suis sur la voie de l'éternité. » Pardonne nos égarements, Seigneur, pardonne nos décisions qui ne sont pas selon ta pensée. Donne-nous de discerner ta volonté, de faire ta volonté, et d'aimer ta parole et la chérir, nous te le demandons, Seigneur, et que nous avons ce privilège, Père, d'aimer ta parole et d'en faire les délices de notre âme. Merci pour cette manne, cette nourriture quotidienne pour nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Merci.